Je crois que j'ai tout dit. J'ai dit à Marcelin, donne-moi. J'ai oublié quelque chose?
Pour que tout le monde se souvienne, le 22 juin, nous aurons deux assemblées générales extraordinaires pour le changement de présidence. Donc, soyez nombreux.
L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er. Voilà, c'est ça. Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Retenez ça, hein. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Avant de prendre le départ pour aller quelque part, vous devez savoir où vous êtes pour partir dans la bonne direction. Si quelqu'un doit venir vous voir et qu'une fois en ville, il vous le téléphone en vous disant « Je suis perdu. Je n'arrive pas à trouver le chemin. Peux-tu m'indiquer ce que je dois faire ?» La première question que vous allez lui dire, c'est « Où est-ce que tu es ?» Donne-moi un point de repère afin que je puisse te guider. Puis à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir lui donner les bonnes indications pour qu'il puisse se trouver sur le bon chemin et arriver à la bonne adresse. Alors, sur le plan spirituel, si vous ne savez pas où vous en êtes spirituellement parlant, eh bien, vous n'aurez déjà aucune idée du chemin que vous devez prendre. Vous n'aurez aucune idée de ce qu'il faut demander à Dieu pour vous, personnellement. Eh oui. Alors, si vous êtes chrétien, vous l'avez lu avec moi, vous êtes en Christ. C'est votre point de départ. Voilà où vous en êtes. Je suis à Jésus. Jésus est en moi, il vit en moi. Alors, l'apôtre Paul va nous donner, je dirais, trois portraits, trois images, ou je dirais, trois indications par rapport à l'enfant de Dieu. Et je crois que c'est à chacun de voir. Mais justement, où il en est parvenu. Le premier modèle ou le premier exemple qu'il donne, il parle d'un chrétien bien portant. Et selon l'apôtre Paul, eh bien, il y a deux caractéristiques chez un chrétien qui est bien portant. Le premier, c'est la foi en Jésus. Amen. Pas n'importe quoi, pas n'importe qui, mais dans la personne du Fils de Dieu. Quand une couturière veut coudre un habit, ah, on va parler un peu de tout, hein. On en est à la couture là. Eh bien, elle utilise un modèle. Elle découpe le tissu d'après le modèle, sur les contours, laissant une marge, bien sûr, pour eh bien, les points de couture. Hein. Alors, selon Dieu, quelle est la marque d'un chrétien, je dirais, en bonne santé? Versets 15 et 16, ils sont là. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Alors, quelles sont les raisons qui poussent Paul à rendre grâce à Dieu? Pour quelle sorte de chrétien, Paul dit-il, qu'il rend grâce à Dieu? Parce que, eh bien, il voit des choses qui lui plaisent. Et on rend grâce à Dieu parce que quelque chose nous plaît. Et on dit du bien de quelqu'un parce que quelque chose nous plaît. Vous voyez, c'est cela. Hein? Alors, un chrétien conforme, dit Paul, bien sûr, eh bien, c'est celui qui mérite qu'on prie pour lui, qu'on rende grâce à Dieu, parce qu'il est un exemple, un modèle. Lui-même s'est placé souvent comme modèle. Il dit, suivez ceux qui marchent d'une manière digne du Seigneur. Regardez et suivez leur exemple, faites comme eux. Prenez le même chemin. Hein, voilà. Alors, Paul dit, la raison qui me pousse à rendre grâce à Dieu, déjà, il dit, c'est votre foi au Seigneur Jésus. Votre foi. Amen. Vous arrivez à mesurer la foi de quelqu'un? Il faut prendre 2 centimètres de la couturière? Non. Non, non. On le voit quand l'épreuve est là, quand la difficulté est là. On le voit quand, il y a des contretemps. Il y a une paix qui l'habite. Alléluia. Être dans l'allégresse au milieu de l'épreuve. Je vais tousser, stop. Vous comprenez? La foi. Cette foi qui est toute petite, mais qui est capable de déplacer des montagnes, de déraciner des arbres et de les faire planter dans la mer. Je ne sais pas si dans la mer, oui, c'est ça, dans la mer, voilà. Alors, vous ne pouvez pas être un chrétien à moins d'avoir mis votre foi en Jésus. Mais attention, ce n'est pas votre foi qui vous sauve. Hop, 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 qu'est-ce qu'il raconte le pasteur? Ce n'est pas votre foi à proprement parler qui vous sauve. C'est la foi en Jésus qui vous sauve. Amen. Bien sûr, la foi, elle rentre en relation, elle rentre justement dans le travail, bien sûr. Alors, c'est celui en qui vous avez mis votre foi, l'objet de votre foi. Vous pouvez avoir toute la foi du monde, mais si elle est mal placée, elle ne vous sera d'aucune utilité. Là, vous pourrez dire à la montagne, déplace-toi de là, enlève-toi, méchante personne. Non, non, ça ne marchera pas. Mais si c'est en Jésus, les choses fonctionnent. Jack Lundlund raconte l'histoire d'une petite fille qui patinait sur la glace. La couche de glace était mince et voilà qu'elle s'est rompue. La jeune fille a sombré dans l'eau glacée. Authentique, hein? Quelques personnes ont essayé de ramper sur la glace pour lui venir en aide. Mais en arrivant près d'elle, la glace se craquelait et elles avaient peur. Oh, elle faisait marche arrière. C'est ainsi que personne n'osait s'approcher pour la secourir. Et elle, c'était difficile pour elle. Mais il y avait là un homme qui vivait dans cet endroit depuis longtemps. Alors ce qu'il a fait, lui, il a fait le tour de l'autre côté et il s'est approché de la glace près de l'endroit où se trouvait la fillette. Puis il a rampé et puis il a réussi à l'attraper et il l'a sauvée. Alors évidemment, pour tous, cet homme était un héros. Vous auriez dit pareil, non? Dites-le, tiens. C'est un héros! Vous n'osez pas! Oh. Alors quelqu'un lui a dit, mon ami, vous devez avoir beaucoup de foi. Il a répondu, voyez-vous, ce n'est pas la foi qui m'a soutenu. C'est la glace qui m'a soutenu. Moi, je savais où il fallait passer. Je savais que là où je suis passé, la glace était plus épaisse et elle le tiendrait solidement. Et J'ai évité ainsi de plonger sous l'eau, moi aussi. Voilà. Alors, nous avons là une bonne illustration de notre foi en Jésus. Amen. En Jésus, c'est solide. Amen. Des fois, on a foi au frère, à la sœur. Sont-ils plus solides que Jésus? Sont-ils aussi fiables que le Seigneur? Non. Donc, la foi en Jésus. Également, ce n'est pas notre foi qui nous sauve, qui nous soutient. C'est Jésus qui nous sauve. C'est Jésus qui sera capable de nous soutenir, même si la glace se brise et qu'on prend le bouillon. C'est notre foi en lui. Votre foi ne peut être efficace que si celui en qui vous croyez est pleinement efficace. Amen. Jésus, c'est le Tout-Puissant. C'est le Fils de Dieu. Donc, il est d'origine et d'essence divine. Amen. Il est comme le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, si votre foi est en Jésus, vous pouvez dire, je suis un chrétien bien portant, en bonne santé, je suis solide. Je suis solide. Vous n'osez peut-être pas le dire. Bon, on va aller plus loin. Hein? La deuxième caractéristique, c'est l'amour pour tous les chrétiens. Paul dit ceci au verset 15 de Éphésiens 1, toujours. « Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre amour pour tous les saints. » Et nous avons ici l'autre caractéristique d'un chrétien qui est en bonne santé, qui est bien portant. Il aime tous les chrétiens. Il ne dit pas qu'il en aime quelques-uns. Non, la plupart. non plus. Il aime tous les chrétiens. Il a d'amour pour tous ceux, justement, qui aiment le Seigneur Jésus. Amen. Paul n'a pas dit « aimez ceux qui vous aiment en retour ». Non. Vous savez, nous, pasteurs, quelquefois, on a... Je vous ouvre un petit peu mon cœur, hein, mais on a vécu des situations un petit peu difficiles. Hein. Vous devez aller prier pour quelqu'un qui raconte des mauvaises choses sur vous. Mais vous y allez. Même s'il raconte des choses mauvaises sur vous. Par exemple, si on a un accro dans la maison, dans la semaine, et le dimanche, je dois prêcher sur le pardon. Mais je ne peux pas en parler et je vais éviter ce sujet. Non, je ne le ferai pas. Parce que je sais que le Seigneur me demande de parler du pardon. Mais je dois d'abord passer, moi, par le pardon. Vous comprenez ? Et donc, avec ces personnes qui, quelquefois, sont difficiles, eh bien, on a besoin de rester tel que nous sommes, tel que le Seigneur nous veut, capable de pardonner à ceux qui nous offensent, à ceux qui nous font du mal. Amen. Alors, il dit, votre amour, il doit être pour tous les siens. Alléluia. Alors, vous êtes un chrétien en bonne santé si vous avez de l'amour pour tous les enfants de Dieu, tous les frères et sœurs en Christ. En fait, c'est important, hein, c'est pas anodin, c'est pas parce qu'il y a une lubie ce matin, non, non. Si vous êtes un chrétien en bonne santé, vous devez avoir de l'amour pour tout le monde. Cet amour va déterminer si oui ou non vous êtes un chrétien en bonne santé. Ou même tout simplement un chrétien. Voyez ce que dit l'apôtre Jean, 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que, vous voyez, relation de cause à effet, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort. Donc je suis obligé d'avoir de l'amour pour tout le monde, même pour celui qui dit du mal de moi. Vous saisissez ? Sinon je passe à côté. C'est pas moi qui le dis, hein, Jean 3, 14. Alors, vous ne pouvez pas prétendre être un enfant de Dieu en bonne santé si vous n'aimez pas vos frères et sœurs en Christ. Et là, je crois qu'il y a peut-être une démarche à faire. Et si quelqu'un en est à ce point-là, je disais, chacun s'examine soi-même et chacun sait où il en est. Donc, c'est propre à chacun. Mais il faut faire une démarche, hein, quel que soit eh bien, le sujet, la situation, également, quelle que soit notre origine, notre parcours, il faut absolument faire cette démarche. Alors, l'amour, c'est quoi, au fait ? L'amour, c'est quoi ? Je prends ce texte d'1 Corinthiens, chapitre 13. Vous savez que c'est ce chapitre de l'amour, hein ? Eh oui. Au verset 1er, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. » L'amour, on va le décrire maintenant, hein, il est patient. Alléluia pour la patience. À mon égard, hein, votre patience, hein, bien sûr. Il est plein de bonté. Amen. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'en veut point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point d'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Je cesse de compter. Hein. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour. L'amour véritable, authentique. L'amour selon Dieu. Eh bien, il ne périt jamais. Voilà ce qu'est l'amour selon Dieu. Vous allez certainement réfléchir et dire, il y a quelques carences chez moi. Hein? Oh, il dit pour moi aussi. Hein? Je ne veux pas me mettre sur un piédestal. J'en suis descendu il y a bien longtemps de ce piédestal. Hein? Et je ne veux pas y remonter. Mais voilà un petit peu, hein, l'amour selon Dieu. Alors, le deuxième portrait que nous donne ce passage de l'Écriture, c'est que un chrétien en croissance est un chrétien qui prie. Un chrétien qui grandit, c'est un chrétien qui prie. Il prie pourquoi ? Bien, la première chose que je retire de ce texte, on va le lire au chapitre 1er de Éphésiens 16 et 18, c'est que Paul parle de la connaissance de Dieu. Il prie pour que les chrétiens d'Éphèse aient une bonne connaissance de Dieu. Il a vu le croyant bien portant, qui a la foi en Jésus, qui aime tous les frères et sœurs. Alors la logique veut que ce chrétien est en pleine croissance. Et là, il a besoin de la prière, il a besoin de prier pour aller dans la bonne direction, pour demander ce qu'il convient de demander. Paul va nous dire quel genre de prière il fait monter vers Dieu pour ces chrétiens. Au verset 16, disais-je tout à l'heure, je fais mention de vous dans mes prières. Au verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc Paul demande à Dieu déjà un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Dieu, pour qu'il connaisse Dieu. Amen. Est-ce que vous priez dans ce sens? Seigneur, fais-moi connaître mieux. Peut-être qui tu es déjà. Quelles sont tes capacités? Mais également, afin que moi, je puisse rectifier la chose et m'élever à ton niveau. Enfin, essayer de m'élever à ton niveau. Parce que le niveau, il est élevé avec Dieu, et chez Dieu, bien sûr. Alors, quelque part, c'est le but même du salut. C'est le but pour lequel Dieu, quelque part, nous a sauvés. Dans Jean 17, verset 1er, Jésus dit, « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est pour nous. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tout le reste est subordonné à la connaissance de Dieu. Je connaîtrai Jésus si je connais bien le Père céleste, Dieu notre Père. Amen. Alors, Paul ne parle pas de connaître des choses sur Dieu, non, mais de connaître Dieu, de connaître lui. Paul prie justement pour que les chrétiens d'Éphèse connaissent Dieu. Mais je crois qu'aussi il a prié pour que les chrétiens dans le futur apprennent à connaître Dieu lui-même. Alors étant donné que ce n'est pas avec notre raison que l'on peut connaître Dieu, c'est avec notre logique à nous, Paul demande que Dieu nous accorde un esprit de sagesse et de révélation. Amen. L'esprit de sagesse, on a besoin de sagesse. Hein, oui. Et plus de révélation, bien sûr. Car il faut que la révélation dans notre esprit, quelque part, nous amène à connaître Dieu. Et pour pouvoir le connaître, eh bien, il faut cette révélation d'en haut. Alléluia. Dieu se fait connaître à qui il veut. Non ? Dites merci. Parce qu'il vous a choisi. Mais oui, eh oui. Alors, pour commencer, il faut avoir fait, bien sûr, cette rencontre personnelle avec Dieu. Je pense que les Éphésiens connaissaient Dieu, mais je rajoute en partie. Il leur manquait certaines choses. Ils avaient besoin de croître dans la connaissance, de grandir dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, bien sûr, elle nous fait grandir. Colossiens 1, 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Croissant par la connaissance de Dieu. Pierre dit, de Pierre 1, 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est Dieu qui nous a appelés. Alors, je réfléchis un petit peu à ça. Si Dieu m'a appelé, est-ce que c'est pour me laisser dans le brouillard? Pour m'accorder une toute petite révélation? Tu as besoin du salut? Invoque-moi. Ok, mais après? Puisqu'il est dit que je dois faire connaître ton nom à tous les hommes et femmes. Donc j'ai besoin d'en connaître plus sur toi. J'ai besoin de connaître tes vertus. J'ai besoin de toi qui m'as appelé. Eh bien, j'ai besoin que tu te révèles encore de manière plus grande, plus glorieuse, plus belle. Amen. Alors, on ne connaît pas Dieu en restant loin de lui. C'est bon, je te connais, maintenant je reste à distance. Parce que tu es quelqu'un de sévère, de dur. On peut essayer de faire ça. On ne le connaîtra pas bien. Et quand on aura besoin vraiment de lui, est-ce qu'on va oser s'appuyer sur lui? Est-ce qu'on va oser croire sa parole qui nous dit que je peux avoir confiance en lui? Je réfléchis, vous voyez, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, on ne connaît une personne qu'en passant du temps avec elle. Et je crois que ce temps, il faut le consacrer au Seigneur. On sait passer du temps avec des personnes. Hier soir, je préparais donc ce message et en préparant ce message, ma journée, j'entendais, j'avais la fenêtre ouverte, il fait de plus en plus chaud, vous avez remarqué, hein. Voilà. Et j'avais la fenêtre ouverte et j'entendais, ça parlait. C'était de la voisine avec une amie. Mais c'est qu'elles ont passé une bonne heure. Il faisait nuit. Mais elles ont passé une bonne heure. J'ai fini par fermer et tirer le rideau pour pas les entendre parce que, au bout d'un moment, c'est bien, hein, mais ça va, hein, ça piaillait, comme je dis. Hein. Voilà. Alors, on sait passer du temps avec d'autres. Pourquoi ne pas passer aussi ce temps avec Dieu? Et il ne s'agit pas ici d'abord d'une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance du cœur. Et là, ce que je remarque également, c'est que la connaissance de Dieu, cette connaissance du cœur, eh bien, elle nous pénètre. Elle nous pénètre et elle nous transforme. Alléluia! Capable de pardonner à ses ennemis. Moi, je l'ai fait, hein. Comme ça, j'étais un peu fier, hein, de dire à mon patron, je prie pour vous. Bon, sa réaction, ça a été, tu ne pries pas pour que je meure, qu'il m'arrive des bricoles. Non, ça, c'était avant que je commence à prier. Avant, oui, je souhaitais. Mais après, je me suis converti, je ne pouvais plus souhaiter ça. Hein. Je n'avais plus le droit. Hein. Donc, je priais pour que cet homme puisse avoir la révélation de l'amour de Dieu pour lui. Et je priais, voilà. Alors, ça nous transforme. D'abord, sa vision et sa nature nous saisissent. Oui, au point qu'elles vont produire en nous une retenue dans notre comportement ou dans les situations à aborder. Je ne vois plus comme ça. Avant, j'aurais bondi avec les poings en avant, mais je ne peux plus. Ça m'est arrivé. Jeune converti sur intervention, parce que j'étais pompier professionnel avant, eh bien, des gars s'en prenaient à mes collègues. Et moi, quand on s'en prenait à mes collègues, c'était vite fait, il était plaqué au sol, le poing devant, et puis voilà. Ben oui. Mais là, je ne pouvais plus. Il dit, je ne peux pas lui en mettre deux après lui dire, Jésus t'aime. Mais non, mais ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Même pour lui dire que Jésus l'aime, je ne peux pas, bon, bon, Jésus t'aime. Non, ce n'est pas possible. Donc, il fallait que je fasse autrement. Eh bien, je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Aide-moi à ne pas réagir. Et puis après, je voyais les choses. Pouf! Personne complètement transformée. Ça, c'est le miracle. Hein. Moi, j'en ai vécu des choses comme ça. Hein, où vraiment, j'ai pu voir la gloire de Dieu alors que j'étais jeune converti. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul écrit ceci, en Corinthiens 15, verset 34, il dit, « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Vous voyez un petit peu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a fait une expérience avec le Seigneur, mais il faut que ça aille plus loin. On a fait une rencontre avec le Seigneur, mais il faut que ça aille plus loin. Il faut que ma nature le soit transformée, elle soit changée. Elle ressemble à la nature du Seigneur. Il faut absolument. Ça doit devenir comme ça. Et là, je suis un enfant de Dieu. Dieu se réjouit. Dieu m'accorde sa grâce. Dieu me bénit. Si quelques-uns sont plus bénis que toi, ne dis pas c'est des chouchous du Seigneur. Non, c'est parce qu'ils se tiennent à carreau, excusez-moi pour le terme, mais ils se tiennent droit devant Dieu. S'ils font profession d'être enfants de Dieu, ils en montrent l'image. Pas que l'image. Ils en montrent la réalité, leur cœur est ouvert, et ils montrent vraiment qu'ils sont enfants de Dieu. Deuxièmement, la prière pour découvrir, ça c'est mieux, hein, c'est mieux que la première partie, hein. Combien nous sommes riches en Jésus. Ça vous plaît, ça? Ouais, ça doit vous plaire, hein? Le trésorier, hein? Alors, non, c'est la richesse en Jésus, attention, hein? Bon. Est-ce que je connais la richesse que je possède en Jésus ? Point d'interrogation. Ouais, je commence à en connaître certaines, mais j'ai besoin de révélations d'autres. Hein. Et oui. Verset 18. Qu'il illumine, c'est la prière est toujours de Paul, hein, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à qui ? Aux mécréants, aux désobéissants, à celui qui fait la tête. Non, qu'il réserve aux saints. Et il a tout dit là. Il a tout dit. Alors Paul ne parle pas d'avoir littéralement des yeux dans notre cœur. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Non, ne cherchez pas à vous faire implanter des yeux. Non, 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 ça ne marche pas là. Hein. Il s'agit ici de la capacité d'avoir la vision des choses spirituelles. Et là, j'arrive à voir avec mon cœur. Et là, je dis que quelquefois, eh bien, on a des enfants de Dieu qui semblent être aveugles aux choses spirituelles. Vous croyez, frère ? Oui, je vous le dis. Je vous le dis. Un jour, j'ai une sœur qui... Je ne vais pas être trop long quand même. Un jour, j'ai une sœur sa maman décède. Et avant qu'elle décède, elle commençait à venir aux réunions. Et un jour, elle s'est levée à l'appel, elle est venue devant, elle me dit « Pasteur, priez pour moi, je veux que Dieu pardonne mes péchés, je veux marcher avec lui, je veux m'engager avec lui. » Formidable. Une ou deux réunions d'évangélisation, vous la voyez venir devant, la première de la file, et puis vous demandez ça. Waouh, priez avec foi, vous dites « Seigneur, merci pour elle, merci, mais pardonne-lui ses péchés. J'ai fait la grande prière, quoi. Hein, voilà. La prière de la foi. Et puis elle décède. Je remonte à la maison, j'étais à la réunion de prière, j'avais laissé ces personnes. Et puis je remonte à la maison et mon épouse me dit « rappelle la sœur, je ne dis pas son nom, comme ça il n'y a pas de... » Alors elle me dit « voilà, maman est décédée, elle vient de partir. » Oh, j'ai dit « c'est formidable !» Mais c'était ma seule réaction. J'ai dit « c'est formidable !» Vous savez ce qu'elle m'a dit jeudi à la réunion ? Elle me dit « non ». Priez pour moi, pasteur, je veux que Dieu me pardonne mes péchés, je veux marcher avec lui, je veux m'engager, me faire baptiser. Elle avait vu ses petites filles se faire baptiser, donc elle me dit, je veux me faire baptiser moi aussi. Je veux marcher avec Jésus. Alors je lui dis ça, la sœur, elle me dit, vous croyez ? J'ai dit, oui, c'est vrai. Bon, après on m'appelle, on me demande de faire les obsèques, je dis, ouais, c'est bien, ouais, je veux faire les obsèques, oui, on va prêcher l'évangile. Je fais les obsèques. Et puis, quelques temps plus tard, oh, ça n'a pas duré longtemps, hein, cette sœur vient me voir et elle me dit, donc lors d'une réunion, elle vient me voir, elle me dit, Bernard, elle me dit, je suis passé chez le docteur qui l'a reçu parce qu'elle avait fait un malaise dans un magasin. Et sa petite fille qui ne savait pas, comme c'était le médecin des parents, mais c'était avant. Entre-temps, ils avaient changé de médecin. Donc, elle est allée chez ce médecin dont elle savait, puisqu'elle vivait, elle, bien plus loin que la ville où elle était, normalement. Elle avait pris des distances avec la ville. Et puis, elle était revenue. Et c'est là que je l'ai baptisée. Elle me dit, voilà, je suis allée chez le docteur. Je ne connaissais plus son nom. Mais elle me dit, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, votre maman, quelle femme formidable. Vous savez ce qu'elle m'a dit ? J'ai rencontré Jésus. Et je vais me faire baptiser. C'est mon sauveur. Alors, elle est sortie de chez le docteur. Elle a pris le premier téléphone qu'elle a trouvé. Elle m'a appelé. À l'époque, elle n'avait pas les portables. Donc, elle a pris le premier téléphone qu'elle a trouvé. Elle m'a appelé en me disant, Bernard, vous avez raison. Mais oui, je vous dis, elle a fait vraiment une expérience de rencontre personnelle avec Jésus. Elle est sauvée, je sais où elle est. Parce que moi, j'avais prêché en disant qu'elle était au ciel, qu'elle était auprès du Seigneur, elle était à la meilleure place eh bien, qu'on puisse être en tant qu'enfant de Dieu. Sans son cœur, ce n'était pas net. Hein, elle était un peu... Voilà. Et puis après, elle me dit, j'ai compris. Ah oui, j'ai compris. Vous voyez, il faut ouvrir les yeux. Il y a un changement qui se produit. Hein. Alors, quand je parle de cela, je dis également que quelquefois, on a des difficultés à voir. Spirituellement parlant. Et c'est comme si on n'avait jamais fait d'expérience avec Dieu, alors qu'on a fait une expérience. Vous ne seriez pas là si vous n'avez pas fait une expérience avec le Seigneur, bien sûr. Alors, regardez un petit peu ce qu'il est dit dans 2 Rois, chapitre 6, verset 15. Et moi, j'ai pris la version français courant. Hein. Je pense que c'est ça, voilà. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. « Malheur, maître !» s'écria-t-il. « Qu'allons-nous faire ?»« N'aie pas peur, » répondit Élisée. « Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, il pria en ces termes. « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. » Oh, c'est la grande prière, vous ne croyez pas? Elle est simple, hein? Soyons simples quand nous prions. Vrai? La prière du cœur, la prière de la foi. Alors il est dit que le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. C'était l'armée de l'Éternel. C'était des anges. C'est la puissance de Dieu qui était là. Alors Paul, je reviens aux Éphésiens, prie pour que les chrétiens d'Éphèse puissent voir le glorieux héritage qu'ils ont en Jésus. Est-ce que tu sais ce que tu détiens aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce que le Seigneur t'a donné en propre? Une richesse extraordinaire. Alléluia! La personne qui devrait remporter le prix de la plus grande avare, j'ai bien dit, est certainement une femme qui habitait à l'époque au nord de New York. Elle s'appelle, ou elle s'appelait, puisqu'elle est décédée, Etty Green. Elle avait hérité d'une fortune colossale, mais elle a continué à vivre comme une indigente. Son petit déjeuner, ses flocons d'avoine, elle les mangeait froids parce qu'elle craignait de dépenser de l'argent pour les faire chauffer. Je vais faire chauffer le petit déjeuner. Elle vivait dans une cabane. Dramatique, tu vas voir. Son fils a dû être amputé d'une jambe parce qu'elle a refusé de payer les soins qu'il aurait dû subir, tout simplement, qu'il aurait dû avoir dans un hôpital. Elle cherchait, elle, une clinique gratuite. Elle n'a pas trouvé. Quand elle est morte en 1916, elle a laissé une propriété à l'époque, vous vous rendez compte, 1916, de 40 millions de dollars. On fait... Pas possible. Ah, papa. Comment une personne qui possédait tant de richesses pouvait vivre comme une mendiante? On dit, c'est pas possible. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que des multitudes d'enfants de Dieu qui sont riches, extrêmement riches, en Jésus, par l'héritage qu'ils ont reçu, l'héritage spirituel, ne vivent pas à la mesure de cet héritage. Vous comprenez? Ne soyons pas avares quand ça concerne le royaume de Dieu. Dieu nous a bénis et nous sommes plus que bénis. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir justement être larges dans ce domaine-là? Eh bien, ce sont les yeux du cœur qui ont besoin d'être illuminés. Alléluia! Est-ce que vous avez déjà vu un stéréogramme? J'ai bien prononcé. Un stéréogramme, ce sont des dessins qui, en apparence, ne représentent rien, mais qui, si on arrive à les voir en se positionnant, je regarde la définition, hein, en se positionnant devant avec une certaine technique et en prenant patience, font apparaître une image en 3D. Au départ, il n'y a rien, des dessins, à l'infini. La première fois qu'on regarde des images, on n'y voit rien, à part une multitude d'images. Et ce n'est qu'avec de la persévérance que finalement, eh bien, on voit. Si vous avez Internet, faites comme moi. Vous allez chercher stéréogramme. Hein, et là, vous trouverez. Et vous allez voir que vous pouvez y passer des heures. Parce que c'est prenant. Vous découvrez, vous arrivez à découvrir. Maintenant, vous voulez voir autre chose. Une autre. Et vous passez à la suivante. Alors, la même chose peut se produire spirituellement. Vous contemplez ce verset qui dit que vous êtes immensément riche en Jésus. Hein, vous regardez longuement et vous vous dites « Pasteur, vous croyez que c'est pour moi ?» Vous voyez votre frère, votre soeur, « Seigneur, il dit que je suis riche, mais tu as vu dans quel état je suis ? Tu crois que c'est vraiment pour moi ? C'est pour un autre, pas possible. » Ce qui est formidable, c'est que Dieu peut ouvrir nos yeux spirituels. Vos yeux spirituels. Et là, vous direz, super, je suis riche spirituellement en Christ, j'ai un héritage formidable et j'ai pas payé de droit chez le notaire. J'ai reçu gratuitement. Je suis riche. Vous voulez être riche ? Que le Seigneur illumine de votre cœur. Que ce soit votre prière. Amen. Et si vous êtes un enfant de Dieu, il doit être logique que vous soyez héritier. Pourquoi ? Il dit dans Romains chapitre 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Tu es chrétien ? Personne ne répond. C'est pas un piège, hein ? Qui est chrétien ? Levez la main. Alléluia. Purée, la richesse qu'il y a ici. Mais oui ! Quelle richesse extraordinaire j'ai devant moi. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Dieu est notre Père. Le Père nous a donné la même position légale que celle du Seigneur Jésus. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc, je ne peux plus vivre de la même manière qu'auparavant. Je suis quelqu'un d'important. Alléluia. On accorde de l'importance que ceux qui sont importants. Vous avez remarqué ? On dit qu'on prête qu'aux riches. Hein, c'est ça ? Eh bien, je suis riche. Alléluia. Alors, il est vrai que le Père, dans sa sagesse, ne nous donne pas tout d'un coup. Imaginez un enfant de 10 ans, il est héritier, vous lui donnez tout. Il va devenir malade parce qu'il va acheter trop de bonbons. Trop de friandises. Non. Sa richesse va être déposée, puisqu'il est mineur, sur un compte en banque. Et au fur et à mesure, on sortira de l'argent pour pouvoir à ses besoins au fur et à mesure. Je dis bien au fur et à mesure. Souvenez-vous d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, où il est dit « En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Alléluia. Voilà une bénédiction spirituelle. Je suis scellé du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur revendique sa paternité. Tu es mon fils, tu es ma fille. Amen. Jésus dit, c'est pour lui que j'ai payé. Bénis le Père. Alléluia. Vous rendez compte un petit peu les soins dont nous sommes les bénéficiaires. Eh oui. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? Bien, c'est que Dieu va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Il va le faire avec gloire en Jésus-Christ. Puis quand vous arriverez au ciel, parce qu'un jour on va arriver au ciel, hein, vous ne voulez pas prendre racine ici quand même, non ? On n'est pas destiné à ça. Hein. Un jour, eh bien, il faudra quitter cette terre. Et il dit que quand nous serons arrivés à la ressemblance parfaite de Christ, c'est-à-dire quand nous sommes prêts, paf, il nous prend avec lui. Pourquoi paf, au fait ? Hop, il nous prend avec lui. Voilà. Et là, eh bien, nous recevons, quand nous serons auprès du Seigneur, la totalité de notre héritage. Pas formidable ? Eh oui. Alors, regardons maintenant le troisième point, le dernier. Le temps, oui. Alors, c'est la puissance pour que le chrétien soit fort. Je suis ressuscité avec Christ. Donc, si vous êtes en bonne santé spirituelle, si vous êtes en pleine croissance, et si vous avez pris des forces, alors écoutez la suite. Éphésiens, toujours, chapitre 1er, verset 19. Quel est envers nous, c'est toujours la prière de Paul, hein, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Alors Paul déclare là trois choses concernant la puissance de Dieu et ce qu'elle a accompli, justement pour le Seigneur déjà. Mais il va déclarer aussi que ça signifie pour moi et pour vous quelque chose de particulier. Premièrement, Jésus a été ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu. Si je suis un avec lui, si je suis co-héritier avec lui, c'est que j'ai reçu sa nature. D'accord ? Alors il dit, j'ai été ressuscité avec lui. Si Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu, toi aussi, tu as été ressuscité avec Christ. Amen. C'est-à-dire que déjà, tu es entré dans cette éternité. Troisièmement, Jésus est assis, donc, je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Vous avez saisi ? Oh, c'est un peu plus haut, hein ? Eh oui, eh oui. Deuxième chose qu'il déclare sur Jésus, c'est que Dieu l'a fait asseoir dans ses lieux célestes. Être asseoir au-dessus de tout, c'est une position d'autorité. Dans les lieux célestes, ça veut dire que c'est l'autorité de Dieu. Alléluia. Et Paul déclare que nous sommes nous aussi assis avec Christ. Alors je reviens. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus. Vous voyez quelle est votre position ? Alors arrêtez de pleurer. Arrêtez de vous lamenter. Celui qui n'a pas d'espérance, oui, s'il pleure, c'est normal. Mais allez le consoler, parlez-lui du royaume de Dieu. Mais vous, nous, je me place dedans, moi aussi. J'ai une position bien plus élevée. Je sais qui je dois invoquer, qui je dois appeler, avec qui je dois parler et m'attendre à recevoir. Amen. Ça, c'est ma position. Alors, ce que dit Paul, ce qu'il est en train de prier pour que les Éphésiens ouvrent les yeux, et qu'ils voient la position que le Père Céleste leur a accordée en les rachetant. Alléluia. Ils étaient incapables de le voir. Alors peut-être que vous êtes en train de dire, ah, ce pasteur, il ne connaît pas ma situation, c'est difficile. Il y a une telle pression. Surtout depuis que je suis devenu chrétien. Eh oui, mais c'est normal. Hein. C'est normal. Il dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ce qu'ils ont fait à Jésus, attendez-vous à ce qu'il vous le fasse. Et ne vous plaignez pas. Un, vous êtes averti, donc une personne avertie en vous. Deux, vous voyez ? Non, mais sérieux, le Seigneur prend soin de vous. Si vous passez par l'épreuve, il ne permettra pas que l'épreuve vous écrase, vous broie, vous détruise. Mais avec l'épreuve, il va donner la solution pour que vous sortiez vainqueur de votre épreuve. Amen. Jésus voit, c'est plutôt Pierre, voyant Jésus marcher sur l'eau, Pierre va s'aventurer à faire de même. D'abord, il est sorti de la barque sur une parole de Jésus. Viens. Et si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Viens, Pierre. Peut-être que plus tard, il a dit, si j'aurais jamais dû dire ça. Vous savez, attention à nos prières. Hein. Eh oui, oui, oui. Alors, en réalité, Pierre, vous croyez qu'il marchait sur l'eau ? Là, il y a un piège. Hein. Ne répondez pas. Pierre, il marchait sur quoi ? Sur la parole d'autorité de Jésus. Viens ! Marche sur l'eau. Viens, Pierre. Eh oui. Alors, c'est la parole qui l'a soutenu. La foi en Jésus. La foi en la parole de Dieu. La foi dans la parole de Jésus. Une parole d'autorité. Amen. Seulement, il va regarder. Ça, il suffit dans les oreilles, le vent. Ouh, oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des vagues. Eh oui, Pierre, tu marches sur l'eau. Eh oui. Et puis là, quand il a regardé autour de lui, qu'il a constaté qu'il y avait du vent et qu'il y avait des vagues, qu'il était en train de marcher au-dessus des vagues, eh bien, il a pris conscience de cela. Quelque part, c'est la chair qui a parlé plus que la foi. Et il est devenu faible. Et il a commencé à couler. Et si le Seigneur n'avait pas tendu la main pour le relever, il aurait pris la tasse. Il aurait pris le bouillon. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, si vous reconnaissez votre position en Christ, et je conclue, hein, vous pouvez marcher au-dessus de vos circonstances. la parole de Dieu, vous en donne le pouvoir, autorité. Et vous le ferez aussi longtemps que vous garderez les yeux fixés sur Jésus. Amen. Mais dès que vous jetterez les yeux sur les circonstances, alors vous allez commencer à couler, à descendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Ayons les regards fixés sur Jésus. Et mon frère, ma sœur, les regards fixés sur Jésus, c'est le rémunérateur de la foi. Et tu as besoin de faire cela. Et là, tu as marché en vainqueur, gagnant par la foi. Alléluia. Et on va dire, quel homme, quelle femme. Et là, vous allez rester tout simplement humble en disant, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Attention à l'orgueil. Hein? Attention. Un frère disait à la sortie, quand on lui disait, frère, merci pour le message, c'était extraordinaire. Il disait, vous voulez ma mort? Tout vient de Dieu, c'est pas moi. Il avait raison. Bon, il le dit d'une manière un peu brute. Hein. Des fois, on est brute. Hein. Mais non, ce qu'il faut, c'est rester humble. Hein, moi, je vous envoie en disant, ah, merci au Seigneur. Hein. Ah oui, plutôt. Gloire à Dieu. On va courber nos têtes, vous voulez bien? Vous avez, à mesure, réfléchi un petit peu à ce que je vous ai dit? Ouais, ce que le Seigneur vous a dit, hein, parce que moi, je suis le porte-parole. Hein. Voilà. Réfléchissez bien. Et puis, à l'avenir, faites les choses comme il faut. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci de nous rappeler ce que nous avons besoin de faire, Seigneur, pour être en harmonie avec toi. Merci pour ta grande bonté à notre égard, ta patience, parce que, Seigneur, tu en as à notre égard. Merci de nous visiter les uns et les autres, de nous donner comme une illumination, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos âmes, que nous puissions voir, Seigneur, ton désir, ta volonté. Et, Seigneur, tout simplement, faire ce que tu attends de chacun d'entre nous. Merci d'avance pour, Seigneur, ce que tu as déjà fait. Merci de nous avoir gardés jusqu'à ce jour. Peut-être, Seigneur, juste sur la ligne de flottaison pour que nous ne coulions pas. Mais Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous puissions marcher bien plus élevés, au-dessus des eaux, Seigneur, au-dessus des circonstances, au-dessus de nos difficultés, de nos problèmes. Merci de nous transformer tout à nouveau, nous faire découvrir, Seigneur, ces mystères cachés qui sont en toi, Seigneur. Je te bénis par avance pour ce que tu vas faire et je te rends grâce. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Les offrandes sont passées ?